explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien, moi, j'y vais. Je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un écrivain voyageur qui, après avoir parcouru le monde, décide de devenir berger. Mais l'aventure paysanne vire au cauchemar, submergé par les dettes, la paperasse administrative et des conflits familiaux. Au bout de 7 ans, il doit se résoudre à renoncer et vendre son troupeau. Notre infortuné berger, Édouard Cortès, est alors au plus mal, épuisé par la tâche, miné par les remords et la culpabilité. Mais dans un dernier réflexe, avant de sombrer, il décide de se réfugier au sommet d'un chêne centenaire, au fin fond d'une forêt du Périgord. Dans une cabane construite de ses mains, il va vivre au plus près de la nature, entre terre et ciel, le temps d'un printemps, avec la ferme intention de renaître en même temps que son arbre bourgeonne. Un voyage immobile au cœur d'une forêt qu'il raconte dans un livre très touchant intitulé « Par la force des arbres » aux éditions Équateur. Cet après-midi, Édouard Cortès nous emmène bivouaquer dans son chêne, là où il a repris goût à la vie. Et en fin d'émission, avec le journaliste Nicolas Legendre, nous irons nous promener sur les sommets bretons, du Mont Dol au Mont d'Arrée. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Couilloum-Jean et Étienne Bertin et préparée par Claire Tesser, avec à la technique aujourd'hui Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tu l'entends ?
Ouais.
Elle est juste à côté.
Ah, on entend le pic aussi.
Oui, on entend le pic derrière. C'est une maison de charbonnière, celle-là. C'est la putaine, c'est celle qui vient nous réveiller à la sieste pour dire qu'il n'y a plus de graines. Elle rentre dans la cabane et elle vient nous sauter sur le ventre, je te jure. Le vent ?
Ouais.
Le vent se lève aujourd'hui. Et tu vois, pour les mésanges, là, ça change rien à leur vie. Hein. Ben, peu importe. Mais moi, je sais que ce soir, ça sera moins tranquille qu'hier. Sous nos pieds, ça tangue. Et on voit les arbres en face qui se rapprochent les uns des autres pour aller s'effleurer, s'embrasser, malgré la timidité des arbres. Le vent les force à se côtoyer.
Bonjour Édouard Cortès.
Bonjour Daniel Fievé.
Nous entendions à l'instant un adepte des cabanes dans les arbres, Xavier Marmier, au micro d'Antoine Chao, perché dans la cabane qu'il s'est construite. Les sensations qu'il décrivait, je vous voyais les écouter avec attention, ce balancement, la proximité des oiseaux, ça vous évoque beaucoup de souvenirs.
Oui, parce que je me suis perché donc à 6 mètres de haut pour un printemps, pour 3 mois. Et il y avait quelque chose de curieux dans ma relation aux oiseaux, c'est que j'étais venu pendant un printemps pour les observer. Et au bout de quelques jours, je me suis aperçu que c'était eux qui m'observaient. Ouais. J'étais dans une cabane très étrange, puisque j'avais passé un mois à construire ce petit nid. C'était une cabane toute vitrée, donc je voyais à 360 degrés. C'était un petit observatoire, un observatoire sur la beauté des forêts. Et j'avais vraiment l'impression d'être le singe ou l'oiseau dans une volière que les autres regardaient.
Ouais. À quoi ressemblait-il ce chêne dans lequel vous avez vécu pendant 3 mois ?
C'est un grand chêne perdu au milieu d'une forêt du Périgord noir, entre Sarlat et Rocamadour, dans un grand massif forestier vallonné dans les fins du massif central, c'est un massif calcaire. Et ce chêne, il est très particulier parce que c'est un vieux chêne, je dirais entre 120, 150 ans, avec des branches très larges. Mmh. Et puis autour, l'exode rural a permis à une forêt de jaillir autour de lui. Donc il y a plein de petits arbres qui sont ses descendants autour de lui. Et lui trône en majesté en haut d'une colline et au milieu de ses enfants, si on peut dire.
Ouais. C'est ça, c'est le patriarche, hein, vous le dites. Il a démarré sa vie au temps où Pasteur inventait les vaccins. Il a été jeune pousse quand s'élevait la tour Eiffel. Vous êtes admiratif, finalement, cette force tranquille qui se dégage de cet arbre vous réconforte.
Oui, c'est rassurant un arbre. Et d'ailleurs, dans ces temps un peu anxiogènes que nous traversons entre la pandémie et les attentats, il est bon de se rapprocher des arbres et de voir qu'il y a quelque chose de très rassurant. Mmh. Autrefois, les hommes se réfugiaient dans les arbres pour se protéger des bêtes sauvages. Mmh. On prenait de la hauteur. Puis après est venu le vieux cri médiéval au donjon. On filait au donjon pour se réfugier et prendre de la hauteur également. Mmh. Eh bien, je crois qu'il est bon aujourd'hui, dans un temps un peu sombre, d'aller aux arbres. Ouais. Donc, aux arbres. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a mes aventures agricoles m'a fait crier aux arbres.
Et oui, c'est ça. Hein. Vous citez d'ailleurs Cyrano qui est en train de s'effondrer, ne veut l'aide de personne, d'aucun humain autour de lui, qui veut juste un arbre pour le soutenir. Vous, c'était votre cas. Cet arbre, ça a été votre bouée, votre dernier recours. Vous sortiez de cette expérience agricole, vous souhaitiez devenir berger. L'expérience a duré 7 ans, ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est très mal passé ?
Parce que je partais sans doute dans l'aventure agricole avec un peu de naïveté, déjà, premièrement, celle d'un citadin qui arrive à la terre. Donc il y a beaucoup de naïveté, ça c'est une première chose. Et puis parce que je ne voyais pas à quel point je comprenais que la tâche d'éleveur de brebis était une tâche compliquée pour soigner les brebis, pour agneler, pour les protéger, etc. Mais je n'avais pas vu à quel point la tâche administrative et tous les à côté agricoles étaient compliqués. Et donc j'ai petit à petit sombré à la fois par manque de trésorerie, toutes les tracas d'un paysan ou d'un commerçant qui veut faire un travail à petite échelle. Il aurait fallu que je passe dans des échelles industrielles pour pouvoir gagner correctement ma vie, ce que je ne voulais pas.
Et cette expérience vous a fait perdre votre confiance en vous. Hein. Vous le dites, une assurance qui venait en partie des nombreux voyages que vous aviez faits avant de vous installer comme berger, parce que vous avez été un grand voyageur. Hein. Vous avez effectué des périples à pied sur des milliers de kilomètres. À l'âge de 21 ans, vous faites une marche de 1800 kilomètres avec deux amis pour traverser le Caucase. Vous partez de la mer Caspienne pour arriver à la mer Noire. Peu après, vous repartez en deux chevaux, cette fois pour aller jusqu'en Afghanistan. Vous le refaites ensuite en deux chevaux jusqu'à Saïgon. Donc il y avait cet esprit d'aventurier, cette confiance que vous aviez en vous. Et ça n'a pas... Tout ça est parti en
fumée. Tout s'est effondré. Alors je dirais que non, parce que les voyages forment la jeunesse. Donc évidemment, il y avait mais il n'y avait plus de ressort intérieur. C'est-à-dire qu'il restait ce que m'ont offert les voyages, un enchantement, un dépaysement, mais il n'y avait plus de ressort pour activer tout ce que m'avait offert le voyage. Et donc, j'étais à bout de souffle. Hein. C'est Aristote qui parle de l'épuisement de l'âme. On arrive à bout de souffle et je ne voyais pas quelle solution pour dépasser les tourments dans lesquels j'étais rentré. Des forêts noires, des forêts obscures, tout était devenu très sombre et je cherchais un moment de clarté et je me suis souvenu de mes voyages justement en me disant que là où je me suis senti le mieux en voyage, certes c'était pendant les rencontres, mais c'était aussi en pleine nature, en forêt, quand le silence, le temps s'arrêtait de couler et que je pouvais traverser ces grands espaces verts.
Alors il y a quelque chose dans votre démarche qui rappelle celle de Henri David Thoreau, philosophe et naturaliste américain qui a vécu au 19e siècle. Il a écrit sur la marche, mais son livre le plus connu s'intitule « Walden ou la vie dans les bois ». Inspiré de sa vie, il raconte comment et pourquoi il se retire dans les bois, dans une cabane qu'il va construire lui-même.
« Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. » Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa simple expression, et si elle se découvrait mesquine, eh bien alors, en tirer l'entière, authentique mesquinerie, puis divulguer sa mesquinerie au monde. Ou, si elle était sublime, le savoir par expérience, et pouvoir en rendre un compte fidèle dans ma suivante excursion.
Un extrait de Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau, lu par Guillaume Gallienne. Vous aviez en tête cet ouvrage quand vous avez décidé d'entreprendre votre retraite à vous, dans les bois, Édouard Cortès ?
Bien sûr, évidemment, parce que c'est le retrait du monde. Virgile appelait ça l'osium, c'est-à-dire le retrait des affaires du monde. C'est exactement ce que fait Henri David Thoreau quand il s'échappe. Il dit qu'il se retire des affaires du monde et il essaie de prendre un peu de hauteur. Je pars de la même démarche. Ouais. Essayer de prendre un peu de hauteur sur ma vie et puis essayer de prendre un peu de hauteur à 6 mètres de haut. C'est pas bien haut dans un chêne. Ouais. Voilà, mais d'aller faire un peu le gland dans un chêne pour prendre un peu de hauteur sur le monde.
Ouais. Il y avait une coupure vraiment radicale. Hein. Déjà, avant de partir, vous coupez tous vos réseaux sociaux, vos comptes. Est-ce que vous aviez ne serait-ce qu'un téléphone portable dans cet arbre ?
Non, j'avais pas de téléphone portable et fort heureusement, j'ai essayé vraiment de me couper les réseaux et de rentrer dans la sobriété heureuse dont parle ouais. Henri David Thoreau, cette simplicité. Donc j'avais l'eau d'une source, j'avais un peu de gaz pour faire ma cuisine, ma cabane, mon petit nid était construit entre 4 branches charpentières, tout était fait en bois, j'avais un matelas quand même, un lit, mais je vivais dans 6 mètres carrés, donc tout petit. En revanche, j'avais une grande vue sur les arbres et j'ai essayé de vivre d'une certaine manière la simplicité volontaire en m'affiliant à Henri David Thoreau.
Vous allez nous raconter ce voyage immobile à hauteur d'arbre pendant 3 mois dans une forêt du Périgord. Édouard Cortès nous emmène bivouaquer au sommet d'un grand chêne cet après-midi sur France Inter.
Crawling.
The Black Keys qui chantait Crawling King Snake sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Ici, on est sur le sentier de la Bourrique. Ça s'appelle le sentier de la Bourrique.
Il y a un petit torrent qui passe en bas.
Il y a un petit torrent qui passe en bas, oui, bien sûr. Alors là, on est joué ici, on faisait nos baraques dans les arbres.
Qu'est-ce que c'est comme arbre?
Là, ce sont des frênes.
Oui, qui sont élancés, hein.
Oui.
Et puis tout à coup, on aperçoit ce qui reste de ce qu'ont été ces cabanes qui ont été construites comme ça dans les, sur voilà. les hauteurs.
Sur les hauteurs. Comme là, on en a une qui est à peu près à 8 mètres, avec deux plateformes avant d'y arriver. Et puis alors, dans les arbres, il y avait on faisait des échelles avec des qu'on clouait ou qu'on attachait avec de la ficelle, des cordes, et pour arriver dans nos fameuses baraques.
C'est difficile à construire comme ça sur la cime des arbres.
Pour nous, c'était pas difficile.
Comment fait-on?
C'était un véritable plaisir. Il y en avait un qui commençait à monter, et puis on avait des cordes, on montait les morceaux de bois avec des cordes, comme les charpentiers. Et puis alors, petit à petit, on construisait nos fameuses baraques avec des planches qu'on récupérait par-ci, par-là, n'importe quoi. On plantait des clous partout, mais là, ils n'aimaient pas trop les parents. Parce que quand ils coupaient les arbres, ils retrouvaient les clous dedans. Ils n'aimaient pas.
Pour les scies.
Pour les scies, voilà.
Un bûcheron, Gilles Mangel, sur France Culture en 1995, évoquant avec nostalgie les cabanes de son enfance. Édouard Cortès est notre invité. Vous racontez dans votre livre « Par la force des arbres » aux éditions Équateur comment vous avez repris goût à la vie en vous réfugiant dans une cabane, dans un arbre pendant 3 mois. La forêt dans laquelle vous avez construit votre cabane est aussi la forêt de votre enfance. C'est très lié à l'enfance, cette histoire de cabane.
Oui, c'est des rêves d'enfant. C'est des rêves d'enfant. Et vraiment, j'ai eu cette joie de pouvoir faire ce rêve d'enfant avec à la vie d'adulte,
oui.
à 39 ans. Donc c'est génial. Donc j'avais les moyens d'un adulte, la force d'un adulte, et j'avais le
et
rêve.
Les outils.
Ouais, les outils. J'avais mes outils agricoles que j'ai reconvertis pour la construction de la cabane. Donc j'avais de bons moyens. J'avais aussi cette idée de que la cabane épouse l'arbre. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à prendre des mesures. Je prenais les mensurations de l'arbre pour que la cabane soit vraiment un petit bijou d'architecture et posé comme un nid dans l'arbre. Mais c'est oui, c'est un peu retour en enfance, mais et pourquoi pas? Un peu comme un voyage,
ouais.
on se retire du monde, on s'extrait pour un temps du monde, et puis on essaie de retrouver un peu la douceur de l'enfance.
Ouais. Alors avant de construire cette cabane, il a fallu choisir l'arbre, hein. Vous nous avez décrit ce superbe chêne, plus que centenaire, hein, de 150 ans que vous avez choisi. Dans la forêt dans laquelle vous vous trouviez, il y avait des chênes, des hêtres, mais aussi des tilleuls, des châtaigniers, des érables, des merisiers. Vous saviez dès le début que ce serait un chêne, ou vous avez hésité? Vous avez passé 5 jours à le chercher, votre arbre.
J'avais une hésitation avec un hêtre.
Ouais.
D'ailleurs, pour ce que ça donne de la vie, un hêtre, hêtre. Voilà. Et je trouve ça beau aussi d'aller se percher dans un hêtre. Pour à moi, à presque 40 ans, j'avais des questions existentielles, donc c'était intéressant. Et puis j'ai pensé pencher pour le chêne parce que j'en connaissais plusieurs, et puis celui-là me parlait particulièrement. Déjà techniquement, 4 branches charpentières permettaient de c'était plus facile pour mettre un premier plancher. Mmh. Et puis également parce que il y a toute une symbolique dans le chêne qui est très belle, et qui traverse l'histoire européenne autour des druides. Le chêne, c'est aussi la puissance. Les Grecs qui écoutaient dans le bruissement des feuilles de chêne les oracles parler.
Ouais.
Donc on peut le rattacher à toute une tradition. Les glands de chêne qui sont la force ou la puissance,
ouais,
ou le porte-bonheur. Et donc je trouvais aussi symbolique que, essayant de me reconstruire, je prenne un arbre qui symbolise la puissance, ouais, ou la force.
Et puis les animaux de la forêt vous confortent dans votre choix, puisqu'après l'avoir choisi, vous revenez sur place quelques jours plus tard, et vous trouvez 2 superbes cerfs au pied de votre arbre. Et ça, pour vous, c'est un signe?
Oui, c'est un signe un peu à la manière dont les anciens, j'ai été berger pendant 7 ans, donc on regarde les troupeaux, on regarde où se placent les animaux sauvages, et quand on voit où se placent les animaux sauvages, on se dit, voilà, là, il y a quelque chose. Parce que eux sentent des choses que nous ne sentons pas dans la nature, comme les arbres qui communiquent, et je me disais, la meilleure place, c'est peut-être celle qu'on choisit, ses cerfs, et ils sont venus confirmer le choix de ce grand chêne.
Et alors, vous allez donc construire votre calme, ça va vous prendre du temps, hein, à raison de 5 à 7 heures par jour pendant un mois. Et au fur et à mesure que vous la construisez, cette cabane, vous avez déjà l'impression que en vous s'opère une certaine reconstruction. Ça vous fait du bien de construire cette cabane?
Oui, déjà concrètement, je reprends du travail, je tourne plus en rond dans ma tête, les idées, j'essaie de chasser les idées noires. Et puis j'ai essayé de réemployer ce que j'avais utilisé comme paysan. Et donc j'ai repris les barrières de mes brebis, je les ai démontées pour faire le parquet ou pour faire mon lit. J'ai forgé par exemple un gros couteau des forêts, un couteau des bois. J'ai réutilisé la baramine qui me servait à planter les piquets pour mes clôtures de brebis. Ouais. J'ai réutilisé comme ça plein de choses. Et alors j'avais l'impression que c'était pas totalement un échec, ma vie agricole, que je pouvais transformer les choses.
Et elle est superbe, hein, votre cabane. Alors on va la décrire, mais on a mis une photo à la fois sur la page du site internet du Temps d'un Bivouac et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient avoir une représentation. Mais vous la surnommez avec différents qualificatifs. Vous parlez de votre yourte sylvestre, de votre orangerie aérienne, parce qu'effectivement elle est entièrement vitrée. Vous avez récupéré des porte-fenêtres à petits carreaux, mais vraiment ça fait comme une lanterne. Et vous le dites, c'est une lanterne perché sur ce chêne. Vous êtes fier du résultat. Elle est superbe, votre cabane. Hein,
oui, parce que je ne m'attendais pas. J'avais fait des cabanes de gamins, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte quelque chose de mes mains, surtout à un moment où j'étais un peu découragé. Et puis tout d'un coup, voilà, comme quoi l'arbre, je reprends Cyrano, rien que l'arbre. Ouais. C'est venu. Et puis j'ai vu que mes mains suivaient l'idée de cette cabane. Tout d'un coup, c'est sorti. Mm-hmm. Peut-être comme un artiste qui modèle la glaise ou qui essaye de faire une sculpture ou un tableau, c'est sorti. Ouais. Et puis effectivement, j'en étais content. Et donc c'était une première étape d'être content de cette petite oikos, ce petit lieu, ce premier lieu de refuge.
Lieu de refuge dans lequel, au bout d'un mois, vous allez vivre. Le temps est venu d'habiter la forêt. Comment se déroulaient vos journées dans cette jolie cabane, certes, mais pas bien grande? Et il vous arrivait d'y passer des semaines entières, une semaine entière, sans en descendre?
Alors j'avais une vie de confiné volontaire,
oui,
mais assez presque avec un rythme assez soutenu monacal, je dirais presque, oui, puisque c'était une forme de retraite. Et donc c'était rythmé sur le rythme du soleil, le lever et le coucher du soleil. Ça, c'était mon rythme naturel. Je suivais globalement la lumière. Et puis ensuite, un peu de sport pour ne pas m'engourdir, de l'écriture, de la lecture. Oui. Mais tout était donné à l'observation. C'est-à-dire que c'est par les yeux, par mes sens, par l'odorat, par l'ouïe, que j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Mmh. Et donc j'essayais, à chaque fois que, par exemple, j'étais en train de faire des pompes pour faire un peu de sport, arrive un chevreuil, je m'arrête, je suis silencieux, je prends les jumelles, je regarde. Viennent les bourgeons le matin, ou les fourmis qui traversent mon arbre, le lys martagon qui éclot, ou l'autour des palombes pendant l'orage, je m'arrête. Tout de suite, j'arrête mon activité et j'observe le plus longtemps possible. Et j'ai passé comme ça un temps de dingue à observer des fourmis, par exemple.
Alors, au plus proche de la nature et aussi au plus proche des éléments. Ça, vous l'avez vécu dans votre cabane, hein, des orages, le tonnerre qui gronde, la pluie qui martèle les feuilles autour de vous. Comment on vit un orage à 6 mètres de haut, perché dans une petite cabane, dans un chêne?
Pour quelqu'un qui voulait être tranquille au sommet d'un chêne, là j'étais dans une certaine forme d'inquiétude. Ouais. Quand l'orage est venu, il en est venu au moins 2 ou 3 puissants. J'avoue que je tremblais, j'ai mal dormi évidemment. Mais c'était aussi une expérience de la... d'être dans le sauvage. On se croit toujours, on regarde toujours la nature avec une idée que on accompagne la nature. Moi, je voulais vivre comme vraiment ne pas traverser la forêt, mais vraiment être dedans. C'est pour ça que le voyage immobile, il est intéressant, parce que effectivement, des aventures nous arrivent alors qu'on est resté sur un point fixe, on est resté dans un chêne.
Vous parlez de, à ce moment-là, votre cabane, vous la comparez à un radeau pris dans la tempête. Faut imaginer que ça tangue, une cabane dans un arbre, ça bouge. À ce moment-là, on doit plus se sentir si en sécurité que ça, vous qui cherchiez à être assuré dans votre...
Non, j'avais bien peur que je finisse comme la chaîne du Fable et du Roseau. Ouais. Vous savez, le chêne s'écrase.
La Fable du chêne et du Roseau.
Voilà, et j'avais peur de ça. J'avais peur que le chêne finisse par tomber à bas. Le matin du premier gros orage, il est arrivé surtout, il a fallu que j'écope comme dans un bateau.
Oui.
C'est-à-dire que tout était trempé, mon toit n'était pas si étanche. Après, j'ai un peu étanchéifié, j'ai mis de la mousse, etc. Mais le premier matin de gros orage, j'étais dans l'eau, dehors et dedans.
Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quelle période pour vous installer dans cet arbre. Hein. C'était au début du printemps, donc les nuits sont fraîches. Au début de votre, on a envie de dire périple, même si c'est un voyage immobile. Au début, les nuits,
c'est un périple. Oui.
C'est un vrai périple, ouais. Hein, on est d'accord. Et puis, petit à petit, la nature reprend ses droits autour de vous. Alors en plus, en ordre dispersé, vous dites tous les arbres ne tirent pas en même temps. Votre chêne n'est pas le premier à bourgeonner. Il y a déjà des érables au loin qui bourgeonnent. Et vous avez vu comme ça la sève remonter, la vie reprendre ses droits dans le chêne que vous habitiez.
Oui, j'ai eu quelques indications d'ailleurs, parce que c'est les fourmis qui m'ont indiqué que la sève était arrivée. Elles sont allées voir les pucerons eux-mêmes qui étaient sur les bourgeons, qui têtaient la sève. Et c'est comme ça que j'ai eu l'indication que ça y est, la sève était montée au bourgeon et que ça allait débourrer. On dit débourrer pour un arbre. Mmh. Et puis, tout d'un coup, est venue l'explosion. Quelques jours après que je sois monté dans l'arbre. Et là, c'était, pour moi, c'était comme j'avais essayé de retrouver cet émerveillement de l'enfant face au tracas de ma vie. J'ai eu l'impression de flocons verts qui débarquaient sur l'arbre. C'est la puissance de l'émerveillement face à ces désillusions d'adultes et ces illusions d'enfants.
Ouais. Dans ce monde, vous étiez un petit peu coupé du reste du monde. D'ailleurs, vous apprenez quelques jours après l'incendie de Notre-Dame, vous l'apprenez quelques jours après, alors que en France on parle que de ça partout. Vous, l'information met plusieurs jours à vous parvenir parce que chaque semaine, chaque week-end, votre femme et vos enfants viennent vous voir. D'ailleurs, ils avaient vu d'un bon œil que vous alliez vous ressourcer dans cet arbre. Ils étaient pour cette espèce de cure, de retraite, mais ils viennent vous rendre visite et c'est comme ça que vous avez appris pour l'incendie de Notre-Dame. C'est ce sentiment que le temps ne s'écoule plus de la même manière, qu'on n'est plus dans le reste du monde. Vous l'avez profondément ressenti.
Oui, mon arbre, il a à peu près, on pourrait dire 140 ans. Il est dans un autre temps, il est dans un autre espace, et j'ai aimé coller à lui pour essayer de rentrer dans une autre dimension du temps, celle de la lenteur, celle que je n'arrive plus à avoir aujourd'hui, entre les écrans, les mails, les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai quitté les réseaux sociaux, mais celle que j'arrivais plus à avoir, c'est-à-dire trouver une respiration hein, dans le temps et dans le vert de la nature. Eh bien, là, mon chêne m'a donné une vraie respiration, une vraie leçon par rapport au temps. J'ai pris du temps libre et petit à petit, ce temps libre me donnait d'essayer d'être libre.
Vous vous sentez à votre place. Petit à petit, vous vous enforestez. Nous aussi, on s'enforeste. Le temps d'un bivouac sur France Inter avec Édouard Cortès, auteur de Par la force des arbres aux éditions Équateur. Good things you deserve now.
try. Find your way out of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, oh, people fly by, and the traffic's booming. Oh, just where you're blowing, getting to where you should be going.
C'était Wildwood sur France Inter de Paul Weller.
Pour moi, un arbre, c'est une antenne vivante. C'est une antenne vivante entre le ciel et la terre. Et c'est un oasis de vie. Là, on est près d'un chêne. On a évalué qu'un chêne va vivre en lien avec à peu près 250 espèces animales, végétales et micro-vies, quoi. Entre les champignons du sol, les mousses, les lichens qui vivent sur l'écorce, tous les insectes, les oiseaux, les petits animaux, il y a à peu près 250 espèces qui vivent en lien avec le chêne. Et les arbres sont tous un petit peu comme ça. Donc pour moi, c'est ça, c'est des antennes, c'est des capteurs d'énergie qui vont dynamiser toute forme de vie. Profitons-en.
L'agroécologue Marc Grolimund sur France Culture dans l'émission Sur les docks en 2014. Édouard Cortès, les arbres capteurs d'énergie qui vont dynamiser toute forme de vie. Vous l'avez ressenti en quelque sorte, hein, le chêne dans lequel vous vous êtes installé quand vous étiez au plus mal vous a transmis une partie de son énergie.
Oui, bah déjà la sève brute et la sève élaborée, alors je la sentais pas passer sous l'écorce, ouais. Mais je vibrais avec l'arbre. Et puis c'est quelque chose d'improbable de se dire que l'arbre, en captant le soleil, arrive à faire un espèce de sucre, une énergie pour lui, pour grandir, pour sortir le printemps. C'est improbable, ouais. Un arbre. C'est vraiment tout, on devrait tellement prendre exemple sur l'arbre. Ouais. C'est tellement le contre-exemple de l'idée de toujours plus de technique ou toujours plus d'avancée ou de progrès. L'arbre, il se contente de très peu, il fait pas de déchets et il produit quelque chose, ouais. Une énergie sans déchets par le soleil. Alors moi, j'ai essayé de capter, de comprendre comment fonctionnait l'arbre et puis de capter un peu de cette clarté, de cette énergie, de cette sève brute. Je me suis éloigné du digital pour aller au végétal.
Oui, c'est ça, la formule est belle. C'est vrai que vous vous émerveillez devant ce qu'est capable de faire votre chêne, comme tous les chênes, mais 200 litres d'eau, il pompe dans le sol, 200 litres d'eau qu'il fait monter dans son tronc pour que l'eau s'évapore par les pores de ses feuilles. C'est vrai que c'est phénoménal quand on y pense.
Oui, c'est assez incroyable. Mais il ne faudrait pas voir l'arbre uniquement comme un système. Ouais. C'était très bien dit de voir qu'il y a 250 espèces qui gravitent autour du chêne, qui vivent avec ou pour le chêne. Et j'aime beaucoup cette idée de la symbiose. Mais elle est très difficile quand on veut essayer de la calculer, la voir, etc. Elle était très difficile à voir. Et d'ailleurs, on n'en finira pas dans le micro microscopique ou dans le grand, on n'en finira pas d'essayer de découvrir toutes les symbioses qui sont autour de l'arbre et tout ce que l'arbre nous apporte. Et j'aime bien avoir ce regard juste de me dire, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Donc plus un regard poétique sur tout en sachant évidemment que tout est lié, que de l'oiseau au ver de terre, l'oiseau qui vient sur la branche, le pic qui vient creuser le trou dans les branches mortes du chêne, tout ça est lié.
Alors, toutes les formes de vie vous intéressent, vous avez un regard poétique mais aussi un peu naturaliste, parce que votre arbre, vous allez, mais littéralement, le scruter à la loupe, hein. Vous passez des heures entières sur les branches à regarder les mousses, les lichens. Vous dites, je rentre par effraction dans une bijouterie du végétal, vous êtes complètement sous le charme.
Je suis fasciné, exactement comme j'ai été fasciné en voyageant, en découvrant d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres paysages. Je me rappelle au lac de Bandé-Amir en Afghanistan, où j'avais été émerveillé devant ces 7 lacs, ces 7 petits joyaux. Et quand j'ai posé ma loupe sur les lichens, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. J'avais l'impression de faire un voyage. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a dans ce voyage immobile, il y a quelque chose d'extraordinaire. Proust disait, le véritable voyage, ce n'est pas celui d'aller chercher du dépaysement par les lieux, mais c'est celui de changer son regard. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, c'est de renouveler mon regard sur le merveilleux, parce que le merveilleux, en France, on n'en manque pas, dans une forêt surtout. Et en plus, si on s'intéresse à un arbre, si on s'intéresse en regardant, on peut prendre une loupe, mais tout simplement en observant à l'œil, je crois que c'est plutôt notre regard, en tous les cas le mien, qui manquait au merveilleux, et je l'ai petit à petit, au fil du printemps, retrouvé.
Alors à vous, le grand voyageur qui est devenu adepte du voyage immobile, je voudrais vous faire entendre quelques mots d'Ella Maillard, photographe et écrivaine suisse qui a parcouru l'Asie au début du XXe siècle, souvent à pied. La voici évoquant les raisons qui l'ont poussé à prendre la route.
Il n'y a rien de tel que de voyager pour apprendre à se connaître. Et plus on voyage, plus on se connaît sous différentes latitudes en se comparant à d'autres. Il faut prendre le bâton de pèlerin et partir à la découverte de soi-même. Ça, j'en suis persuadée. La plupart des gens ne cherchent pas. Je sais pas ce qu'ils attendent, parce que c'est difficile de trouver quelque chose qu'on ne sait pas. Tout le monde cherche un équilibre et un bonheur, ça je suis persuadée.
Ça, l'équilibre et le bonheur, vous l'avez cherché. Le bâton de pèlerin aussi, vous l'avez pris de nombreuses fois. Vous êtes allé de Paris à Jérusalem, 6000 km à pied, de Paris à Rome, en famille, avec une charrette. Vos enfants en très bas âge, une charrette tirée par un âne. Et là encore, un très long périple que vous avez fait. Vous avez fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces heures, ces jours, ces semaines à marcher, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous nous dites finalement, dans mon arbre immobile, j'ai fait un voyage intérieur presque plus fort que tous ces pèlerinages.
Je crois, j'aime beaucoup les mots d'Ella Maillard. Elle dit une phrase qui pourrait exactement illustrer ce que vous venez de me dire sur le pèlerinage ou l'ambivalence entre est-ce qu'il faut rester auprès de son arbre ou est-ce qu'il faut quitter son arbre et aller voyager au loin. Ella Maillard dit « il faut aller voir ». Et je crois que ça résume très bien l'esprit de l'exploration, l'esprit de découverte. Et là, j'ai essayé d'aller voir, d'aller au-delà de mes connaissances, d'aller au-delà de mon petit moi, et d'essayer d'être humble par rapport à la nature, par rapport à la forêt, par rapport à l'arbre, et de découvrir une partie, une facette de cet arbre. Donc je suis allé voir l'arbre. Comme une rencontre pendant un voyage, j'ai rencontré un chêne et j'ai passé du temps avec ce chêne. Et c'est pour ça qu'il y a toujours évidemment une ambivalence, une oscillation entre celui qui veut aller au loin et celui qui veut rester auprès de son arbre. Mais c'est difficile de les opposer en permanence. On est pétri de paradoxes. Et donc moi j'essaye de composer avec ces paradoxes. Mais je crois que la sagesse aussi de temps en temps, c'est de pouvoir rester auprès de son arbre, ouais. Comme le chantait Brassens.
Alors quand vous vous êtes réfugié dans cet arbre, vous étiez au plus mal, vous aviez des idées suicidaires, et vous avez senti, hein, on l'entend au fil des semaines, que ça allait mieux, que vous aviez repris goût à la vie, envie de vous battre. Alors comment on redescend ? Une fois que la magie a opéré, qu'effectivement on se sent mieux, comment on redescend de son arbre où vous étiez si bien ? Comment vous avez pris la décision de redescendre ?
Ah, si j'avais su qu'il y aurait eu un virus, je serais resté confiné dans
mon arbre.
C'était
en 2019, hein, ouais, c'est-à-dire que
exactement,
c'était un an...
juste avant les grands confinements, mais si, ouais. Je serais resté dans mon arbre. Mais non, je suis redescendu dans mon arbre parce que j'avais... Par le merveilleux, par le singulier, j'ai dégagé une petite philosophie des forêts qui m'a réconcilié avec les hommes. C'est peut-être le merveilleux qui m'a réconcilié, la beauté du monde. Je savais qu'elle existait, mais j'arrivais plus à me connecter à elle. Et le fait de lâcher les connexions, Internet, le réseau, le téléphone, etc., tout ce qui en fait nous coupe, qui sont des écrans de fumée à la beauté du monde, le fait de m'extraire un petit temps, 3 mois, c'est pas très long, mais c'est déjà suffisant pour se rendre à l'évidence que la beauté existe, que on est des êtres de relation, et donc il me fallait redescendre. Et je suis redescendu sans doute parce qu'une certaine paix s'était dégagée à travers le minuscule et l'immensité. Vous savez, on dit très bien que les arbres sont la connexion entre la terre et le ciel, et j'avais l'impression d'être un peu reconnecté grâce à l'arbre.
Vous repartirez sur les routes maintenant que vous avez pris goût au voyage immobile ?
Oui. Je pense que ma prochaine destination, ce seront des forêts, sans doute. Oui, ça c'est sûr.
Mais peut-être des forêts plus lointaines ?
J'aimerais bien les forêts européennes, pourquoi pas, ou les grandes forêts primaires, mais je ne sais pas, j'ai des fourmis dans la jambe, ça c'est sûr, mais vu les conditions dans lesquelles le monde évolue, ce sera aux arbres.
Ouais, ouais, votre arbre vous a refilé des fourmis. Merci Édouard Cortès, je rappelle le titre de votre livre, Par la force des arbres, aux éditions Équateur. Vous restez avec nous, dans un instant, le temps d'un bivouac plante sa tente en Bretagne, au sommet des montagnes, oui, des montagnes, en Bretagne.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens,
on laisse
cet idiot.
Certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire.
préfère me taire.
Petit, je ne joue pas à ce petit jeu.
Allez, chante!
C'était Ours et M, Petit Jeu sur France Inter. Merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est mon heure préférée, ouais. Le lever du jour. On est en plein cœur des monts d'Arrée, puis la brume qui se lève. Il y a l'ambiance. Alors là, on a une vue sur le mont Saint-Michel. De ce côté-là, on a un rocher qu'on appelle le rocher des exorcismes, c'est le roc Kléger. C'est de là que démarraient tous les grands exorcismes dans le temps. Alors après, sur la droite un peu, on a ce fameux Tuchencador qui, lui, est naturellement le point le plus haut. Et c'est là que vient... se reposer l'encou la nuit et surveiller tout son territoire qui s'étend sur la Cornouaille, le Trégor et puis le Léon.
Dénez Prigent chante les chemins merveilleux. Nous voilà arrivés en Bretagne intérieure. Juste avant Dénez Prigent, sur les monts d'Arrée, nous entendions la voix du regretté conteur Claude Lelanne en 2001. Pour nous emmener à la découverte de ces monts bretons, nous a rejoint Nicolas Legendre. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier L'Himalaya breton aux éditions du Coin de la Rue, un road trip poétique et curieux qui nous emmène du Mont Dol au Mont d'Arrée en passant par le massif de Pimpon. On parcourt à vos côtés avec bonheur cette Bretagne intérieure dans laquelle vous gravissez des montagnes. Car vous l'affirmez, dire qu'il n'existe pas de montagne en Bretagne, c'est méconnaître la région. Expliquez-nous.
Oui, d'abord, c'est la géologie hein, qui nous donne des indications. C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait là, dans le massif armoricain, une cordillère qui atteignait 4 à 6 000 mètres d'altitude. La géologie a fait son travail depuis. Et c'est vrai que ces sommets, ces hauteurs, ces hautes collines, on pourrait dire, armoricaines, ont gardé quelque chose de montagnard, à la fois dans leur relief. Et puis, tout ça s'est traduit aussi dans le rapport que les humains qui habitent ces lieux ont entretenu avec eux, notamment en les sacralisant.
Vous dites hein, le climat pour nous persuader un peu qu'on est bien, on a bien affaire là, certes des montagnes anciennes, mais des montagnes tout de même. Le climat change sur les hauteurs, il ne fait pas tout à fait le même climat. Le vent souffle plus fort sur les monts bretons.
Ouais, on a des conditions qui sont particulièrement difficiles, notamment en haut des monts d'Arrée, avec une pluviométrie forte, beaucoup de vent, et on a des indications aussi au niveau de la flore, par exemple, avec une flore des plantes qui se rapprochent qu'on ne trouve ailleurs en France que dans les montagnes, et tout ça contribue à donner à certains sommets bretons leur caractère véritablement montagnard, même si on a altitude faible, puisqu'on ça culmine à 385 mètres d'altitude environ.
Ouais. 385 mètres, à mettre en regard tout de même, vous disiez entre 4000 et 6000 mètres, hein, il y a plus de 250 millions d'années, mais dans votre ouvrage, vous êtes même vous allez plus haut, si j'ose dire, puisque vous dites il y avait là des montagnes qui allaient jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Hein, c'est vraiment, il y a eu en son temps un Himalaya breton. Alors à ce moment-là, la Bretagne, en tout cas ce qui deviendra la Bretagne, se trouvait au niveau de l'équateur. On est vraiment à une autre époque.
Oui, oui. Juste pour préciser, a priori, parce qu'on n'est pas certain de tout ça, les géologues ont que des indications assez vagues. Les 8000 mètres n'étaient pas au niveau du massif armoricain. Nous, c'était plutôt 4 à 6000 mètres. Enfin, tout ça, c'est beaucoup tassé depuis, de toute façon.
D'accord. Alors, les Bretons, d'ailleurs, dans le nom même, dans la toponymie, le nom des lieux, on retrouve hein, cette notion de montagne. Alors, Menaise, Minée, Ménée, Minaise, Manée, tout ça, ça signifie montagne.
Tout ça, ça signifie montagne, et ça montre en fait comment les Bretons, à travers les âges, ont considéré ces hauteurs, et ça montre qu'ils les ont considérées comme de véritables montagnes. C'était leur montagne à eux, en fait. Un élément important, c'est qu'ils les ont sacralisées pour bon nombre d'entre elles. C'est le cas du Ménéum, ça a été le cas de la montagne Saint-Michel de Brasparts, c'était le cas du Mont Dol. Ils ont ressenti depuis des milliers d'années les peuples qui occupaient ces territoires des choses particulières, des vibrations particulières en foulant ces lieux, tant et si bien qu'ils les ont sacralisés, comme d'autres peuples aux quatre coins du monde ont sacralisé leurs montagnes. Ça peut être les indigènes d'Australie, par exemple, ou les Mongols avec le Burhan Khaldun, où aurait été enterré Genghis Khan.
Ouais, le sacré, on y revient dans cette émission. Et vous, dans votre périple, dans votre marche sur ces monts bretons, vous êtes passé par ces lieux. Alors, il y a les mégalithes, évidemment, que l'on connaît, mais et puis il y a aussi cette région, le massif de Paimpont, où on trouve la forêt de Brocéliande. Alors vous êtes en plus originaire du coin et vous êtes particulièrement sensible à ces vibrations. C'est vrai que dans cette forêt, eh bien, il se passe quelque chose.
Oui, il se trouve que la forêt de Paimpont se trouve sur un massif qui est l'un des points culminants de la Bretagne occidentale, donc de la Haute-Bretagne. Alors, forêt de Paimpont, sur laquelle a été plaquée, disons, la forêt de Brocéliande, avec des appropriations du folklore, etc., à tel point qu'on ne sait plus exactement ce qu'il en est, de la légende, du mythe, du business, du Korrigan, etc. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on a affaire à une hauteur, une petite montagne de Haute-Bretagne, et que et qu'on ressent des choses particulières quand même dans ces lieux, qu'on soit athée ou croyant ou pas, peu importe. Mais il y a un esprit des lieux, en fait. Et ça, encore une fois, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai également dans l'histoire, puisque on le voit, ces lieux ont été sacralisés, ont été jalonnés de mégalithes, de lieux saints chrétiens par la suite.
Nicolas Legendre, tout au long de votre périple dans cette Bretagne intérieure, vous vous intéressez aussi à l'histoire récente et à la façon dont les paysages ont évolué au cours du dernier siècle.
Oui, parce que les montagnes bretonnes sont vraiment des promontoires, en fait, qui permettent déjà d'avoir des vues, des panoramas souvent dantesques, mais c'est aussi c'est une fenêtre sur la Bretagne intérieure, sur le ce qu'on appelle le Kreis Breiz, sur son évolution récente. Et on a affaire là à des paysages qui ont été littéralement transfigurés, en fait, ces 100 dernières années, du fait des révolutions agricoles, du fait du remembrement. Ça a été la disparition d'un certain nombre de zones humides, de landes, de haies, de talus, bien sûr, le drainage de terre, et tout ça de façon parfois extrême, avec des paysages qui ont été en partie massacrés, en fait. Bien qu'il reste ça et là des havres dans lesquels moi j'aime à me promener.
Oui. Vous nous en livrez quelques-uns de ces havres préservés là où la Bretagne ressemble, en tout cas les paysages ressemblent encore à ce qu'ils étaient il y a 100 ans.
Oui, je peux citer par exemple les gorges du Daoulas auprès du lac de Guerlédan, les gorges de Poulancre également, qui sont des endroits assez peu fréquentés mais vraiment splendides. Et puis moi j'aime particulièrement les monts d'Arrée, bien sûr, qui sont quand même assez connus maintenant, avec l'un de leurs sommets, le Tuchen-Cador, et puis le Ménéum, qui est sans doute le plus beau sommet breton, qui domine la presqu'île de Crozon. On voit la mer, c'est absolument splendide.
Nicolas Legendre, pour terminer, en 30 secondes, votre métier de journaliste vous a amené à voyager loin. Hein. Vous avez, par exemple, traversé le Kazakhstan. Mais ce livre fait l'éloge de l'aventure de proximité. Hein. Vous avez grandi, je l'ai dit, en Bretagne, et vous semblez vivre cette traversée de la Bretagne intérieure comme une véritable exploration, avec un œil émerveillé.
Ouais, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on peut, je pense qu'on peut vivre des épopées à côté de chez soi, en fait, en s'émerveillant sur la beauté d'une plante, sur la différence qu'il peut y avoir entre, pour moi, hein, entre la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. On change de langue, des toponymies différentes. J'ai toujours l'impression, quand je me promène en Bretagne, de faire un voyage, en fait. Et c'est l'idée aussi de ce livre, ouais, c'est un éloge du voyage près de chez soi.
Bien, juste une petite réaction de 15 secondes, Frédéric Lenoir.
C'est vrai qu'il y a des lieux, des terres qui éveillent plus particulièrement ce sentiment du sacré. Ouais. Et la Bretagne a quelque chose de très magique. Hein. Ouais. Moi, j'adore aussi la Bretagne. Il y a des lieux en France comme ça, dans lesquels on se promène et on sent toute la magie. Et ça a souvent été dans le passé des terres de légende.
Je rappelle le titre de votre livre, très agréable à lire, L'Himalaya breton, illustré par les aquarelles de la carnétiste Joël Bockel. C'est aux éditions du Coin de la Rue. Un grand merci à vous, Nicolas Legendre.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.